Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Chaque mois sur RCN, Gwenaël, Anissa et Alexis décryptent l'actualité internationale. Où va le monde ? Sur RCN.
Bonjour et bienvenue dans Où va le monde, l'émission mensuelle qui explique les grands sujets d'actualité internationale. Je suis avec Gwenaël.
Bonjour.
Et avec Anissa.
Bonjour.
Pour cette émission du mois de janvier, les deux grands sujets que nous avons retenus, c'est évidemment la capture de Nicolas Maduro, le président vénézuélien par les États-Unis de Donald Trump. C'est la grande actualité qui a marqué tout le début de l'année 2026. Et quelles sont ses origines? Qu'est-ce que ça veut dire sur la politique de Donald Trump? C'est les questions auxquelles nous allons répondre. Et l'autre sujet que nous avons décidé d'aborder, c'est le fort mouvement de manifestation qui secoue l'Iran depuis 3 semaines. Donc on va vous expliquer en quoi il consiste et c'est quoi ses origines historiques. Pour en revenir au Venezuela, Gwenaël, quelle était la situation dans le pays avant la capture de Maduro ?
Alors déjà, le Venezuela, c'est un pays d'Amérique du Sud qui compte environ 28 millions d'habitants pour une superficie de 910 000 km². Aujourd'hui, le pays traverse une période de crise politique, sociale et économique. 8 habitants sur 10 vivent en ce moment même sous le seuil de pauvreté. À tout ça vient s'ajouter des tensions sur la scène internationale, notamment en raison des alliances du pays comme la Chine, la Russie ou encore avec l'Iran. Et en plus, on vient rajouter des accusations de narcotrafic transnational portées par les États-Unis. Ces dernières ont conduit, comme tu l'as dit, à l'opération militaire du 3 janvier 2026 et à l'arrestation du chef d'État vénézuélien Nicolas Maduro. Mais pour saisir la politique vénézuélienne, il faut remonter le fil de l'histoire. Tout commence en 1992 lorsque l'homme politique de gauche populiste Hugo Chavez tente un coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez. L'échec du renversement politique, il est total. 7 ans plus tard, cet homme revient cette fois par les urnes. Il remporte l'élection présidentielle en 1999 et lance ce qu'il appelle la révolution bolivarienne. Nouvelle constitution, nouvelle institution, l'objectif, il est clair. Bâtir une démocratie dite populaire et participative. Côté économie, il fait un choix radical. Celui de miser exclusivement sur le pétrole. Résultat, aujourd'hui, le pays devient fortement dépendant de l'or noir et n'a plus de véritable alternative économique. À la mort de Hugo Chavez le 5 mars 2013, c'est Nicolas Maduro qui lui succède. Très vite, la crise économique s'aggrave. De 2014 à 2017, le pays fait face à des pénuries alimentaires qui entraînent un mécontentement populaire. La réponse du pouvoir est dure, la répression s'intensifie, poussant peu à peu le Venezuela vers un régime autoritaire. Les scrutins font également l'objet de vives critiques. Lors de la présidentielle de 2018, l'opposition décide de boycotter le vote, dénonçant un manque de transparence et d'irrégularité. En 2024, la réélection de Maduro est qualifiée de truqueuse par une grande partie de l'opposition. L'international, elle, dénonce à travers l'Union européenne et les États-Unis une fraude électorale. Sur le plan intérieur, la politique de Maduro divise aussi profondément. Les médias sont largement liés à l'État, ce qui entraîne une perte de pluralisme. La dissidence est souvent intimidée ou réprimandée par des milices telles que le Colectivo. Enfin, pour accéder à certains produits alimentaires ou à des soins médicaux, de nombreux Vénézuéliens dans le besoin doivent s'inscrire au livre de la patrie. C'est une sorte de carte d'identité sociale qui est dénoncée comme un outil de contrôle politique. Aujourd'hui, le Venezuela traverse une crise sans précédent entre pauvreté massive, pénurie et bouleversement politique.
Merci Gwenaël. Et il faut aussi comprendre qu'il y a des tensions qui sont assez grandes depuis longtemps entre le Venezuela et les États-Unis. Et tout a commencé avec l'élection d'Hugo Chavez, du coup, en 1999, qui portait un discours anti-impérialiste et anti-USA. Donc forcément, ça a détérioré leurs relations. Et comme évoqué plus tôt, il y a eu un coup d'État contre Hugo Chavez qui est soupçonné d'être sur un fond d'implication américaine, ce qui a encore augmenté la défiance du Venezuela vers les États-Unis. Et il y a tout qui s'est accéléré en 2024 après la réélection de Nicolas Maduro. Les États-Unis ont affirmé que les élections étaient frauduleuses et ils ont soutenu Edmundo González Urrutia, le candidat d'opposition de Maduro, en disant que c'était le réel vainqueur. Mais c'est à partir du deuxième mandat de Donald Trump que les relations des deux pays vont fortement se détériorer jusqu'à la capture de Nicolas Maduro le 3 janvier 2026. Dès son élection en 2024 et le moment où il est arrivé à la Maison-Blanche en 2025, Donald Trump a multiplié les attaques contre le Venezuela. Il accusait Nicolas Maduro et son pays d'être responsables de trafic de drogue et de cocaïne arrivant aux États-Unis. Et ces accusations, elles ne sont pas fondées. La Maison-Blanche, elle n'a jamais apporté de preuves réelles sur la culpabilité du pays d'Amérique du Sud. À partir d'août 2025, les menaces elles se sont accentuées et Trump a fait déployer de plus en plus de bateaux militaires dans la mer des Caraïbes, notamment l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions américain, des destroyers et un sous-marin à propulsion nucléaire. Mais l'escalade elle a vraiment commencé le 2 septembre quand les militaires américains ont abattu un navire vénézuélien suspecté de transporter de la drogue. 11 personnes sont mortes dans le naufrage. Du côté vénézuélien, Maduro a refusé de céder aux pressions américaines. Il a fait préparer son armée et a même fait se mobiliser les civils en cas d'invasion américaine. Il réfute toute accusation de trafic de drogue et explique que les Américains jalousent le pétrole du pays. Mais cette préparation du Venezuela n'aura pas suffi. Pendant la nuit du 3 janvier, les États-Unis bombardent Caracas et capturent Nicolas Maduro, qui est tout de suite exfiltré vers New York. Le bilan humain est d'au moins 55 morts, dont 32 soldats cubains et 23 militaires vénézuéliens. Aucun mort n'a cependant été compté du côté américain. Et le 5 janvier, Nicolas Maduro il a comparu devant un tribunal à New York où il a plaidé non coupable pour 4 chefs d'accusation. Narcoterrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne, possession d'armes automatiques et possession d'engins destructeurs. La date de son audience elle est fixée pour le 17 mars. Depuis la capture du chef de l'État, c'est Delcy Rodríguez, la vice-présidence, qui assure l'intérim en attendant la tenue d'élections présidentielles, mais le pays est tout de même supervisé par Washington. Et cette intervention, qui ne respecte aucunement le droit international mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est souvent décrit comme un retour de la doctrine Monroe. Anissa, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Bien sûr, Alexis, donc la doctrine Monroe, en hyper simple, c'est une règle des États-Unis qui dit « l'Amérique, c'est pour les Américains, les Européens n'ont pas à venir s'en mêler ». En gros, elle a été annoncée en 1823. Les États-Unis voulaient empêcher les pays européens de coloniser ou d'intervenir dans les Amériques, Amérique du Nord ou du Sud. La doctrine Monroe est donc un vieux concept de plus de 200 ans qui avait été annoncé à l'époque par le président James Monroe. Son idée principale était donc simple, l'Amérique aux Américains. Concrètement, ça voulait dire que les puissances européennes ne devaient pas intervenir ou coloniser les pays d'Amérique. Et en échange, les États-Unis ne s'occupaient pas des affaires européennes, une sorte de protection mutuelle, au départ sans grande violence. Mais avec le temps, cette doctrine a changé. Au XXe siècle, Roosevelt a donné aux États-Unis le droit d'intervenir dans les pays d'Amérique latine quand il le jugeait nécessaire, devenant le gendarme de la région. Et pendant la guerre froide, elle a été utilisée pour justifier des interventions contre le communisme, comme au Guatemala, à Cuba et au Chili. Aujourd'hui, selon les experts comme Laurent Jacoby et Clément Thibault, on assiste à un retour d'une doctrine Monroe dure et militarisée. Avec l'opération Absolute Resolve, les États-Unis ont directement intervenu au Venezuela en capturant Nicolas Maduro et son épouse et en affirmant leur contrôle sur l'hémisphère occidental. C'est une version agressive et assumée, plus question de simples avertissements. Washington agit maintenant pour protéger ses intérêts, notamment le pétrole et la stabilité politique selon ses critères. Cette approche inquiète les observateurs internationaux car elle crée un précédent. Si les États-Unis peuvent agir ainsi en Amérique latine, d'autres puissances comme la Russie ou la Chine pourraient le faire de même dans leur zone d'influence, par exemple en Ukraine ou en mer de Chine. En résumé, la doctrine Monroe n'est plus seulement une vieille règle pour tenir les Européens à distance. Elle est redevenue aujourd'hui un outil pour justifier l'intervention directe des États-Unis dans les affaires de ses voisins. Et le Venezuela en est le dernier exemple frappant.
Et donc aujourd'hui, l'avenir du Venezuela est plutôt sûr, il semblerait qu'il va y avoir des élections présidentielles et que le pays va suivre une transition démocratique sous influence des États-Unis. Donc c'est certainement un pays qui va s'occidentaliser et revenir comme il était avant l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir. Et pour ce qu'il en est de la doctrine Monroe, elle continue à se voir, notamment avec les déclarations de Trump pour le rachat du Groenland.
Où va le monde ? Sur RCN.
Et pour le deuxième sujet de cette émission, nous avons décidé de parler de l'Iran, pays du Moyen-Orient secoué par un fort mouvement de manifestation depuis 3 semaines. Un mouvement qui est fortement réprimé et qui remet en cause le pouvoir en place. Mais pour comprendre les protestations contre le pouvoir, il faut revenir en arrière aux origines de la République islamique d'Iran. Gwenaël, comment est-ce que justement elle a été mise en place ?
Alors, déjà, il est important de savoir que l'Iran, elle vit sous un régime à double visage, celui de la République islamique. D'un côté, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989. C'est lui qui concentre l'essentiel des pouvoirs politiques, militaires et religieux. De l'autre se trouve le président Massoud Pezeshkian, élu en 2024 pour 4 ans au suffrage universel. Son rôle est encadré, il gouverne sous l'autorité directe de l'ayatollah Khamenei. En Iran, le pouvoir politique demeure avant tout dans les mains des mollahs et donc de la religion. Pour comprendre la naissance de la République islamique d'Iran, il faut remonter au début des années 1960. À cette époque, le pays est une monarchie impériale dirigée par la dynastie Pahlavi. Un régime qui est de plus en plus critiqué, notamment pour la corruption et pour la violence de la SAVAK, la police des renseignements de sécurité nationale. Parmi les opposants au gouvernement, on a une figure qui s'impose, celle de l'ayatollah Khamenei. Chef de l'opposition religieuse, il dénonce un règne qu'il qualifie de tyrannique. Ses propos lui valent des arrestations puis l'exil en 1964. Mais loin de faire taire la contestation, cet exil alimente la première grande émeute du pays. À cette situation s'ajoute un contexte économique qui aggrave davantage les tensions. En fait, entre les années 1963 et 1967, Téhéran va s'enrichir grâce à l'âge d'or du pétrole, mais la population, elle, va faire face à une dure augmentation de l'inflation. Pour tenter de reprendre la main sur tout ça, le Shah lance un vaste programme de réformes, celui de la Révolution blanche. Nationalisation des pâturages, développement de l'éducation dans les zones rurales et droit de vote accordé aux femmes. Mais ces réformes sont vivement critiquées par les religieux qui y voient une menace pour l'islam. L'Iran entre alors dans une décennie de tensions mêlant modernisation autoritaire, répression politique et montée d'une opposition religieuse de plus en plus influente. Début septembre 1978, le Shah proclame la loi martiale. C'est donc la suspension des lois fondamentales comme les rassemblements. L'objectif, il est clair, étouffer la contestation. Pourtant, cela ne fonctionne pas. Les manifestations continuent, rassemblant à la fois des intellectuels de gauche et des opposants religieux. Le 8 septembre 1978 marque un tournant dans la révolution populaire. Ce jour-là, l'armée ouvre le feu sur une foule en laissant derrière eux des milliers de morts. L'événement entre dans l'histoire nationale iranienne sous le nom du Vendredi noir. Loin de briser le mouvement, cette répression radicalise encore la contestation. Les manifestations réclament la fin de la dictature et l'agrandissement de leur liberté. C'est donc dans ce contexte que le 16 janvier 1979, le Shah quitte l'Iran pour se réfugier en Égypte, où il décédera quelques mois plus tard. Le 1er février 1979, l'ayatollah Khamenei rentre d'exil. 10 jours plus tard, soit le 11 février, après la fuite du premier ministre Sapur Bharkia, le régime monarchique s'effondre. L'ayatollah Khamenei prend alors officiellement le pouvoir. C'est donc ainsi, en juin 1979, que l'Iran change définitivement de visage. Il devient la République islamique d'Iran que nous connaissons aujourd'hui. Le pouvoir est donc entre les mains du clergé chiite et du guide suprême. Près de 47 ans après, ce système est toujours en place, mais aujourd'hui, son autorité est de plus en plus contestée.
Ce pouvoir qui a été mis en place en 1979, il a traversé de nombreux mouvements, de nombreux moments qui l'ont tantôt légitimé, tantôt remis en cause. A commencé par entre 1980 et 1988, la guerre entre l'Iran et l'Irak. Malgré les coups humains, la guerre, elle a eu un effet positif pour l'ayatollah Khamenei. Elle lui permet de se présenter comme un défenseur de la nation et fait monter le sentiment nationaliste au sein de la population irakienne. Le régime s'est retrouvé donc légitimé et la population unie autour de lui. Mais en 1989, Khamenei meurt suite à des hémorragies internes. Il choisit donc Ali Khamenei comme successeur, qui est encore aujourd'hui guide suprême de la révolution, la plus haute autorité de l'État et de la religion. C'est en 2009 que l'Iran connaît l'un de ses premiers grands mouvements de manifestation. Le 12 juin de la même année, après les campagnes présidentielles, le président sortant, Mahmoud Ahmadinejad, est réélu dès le premier tour. L'ultra-conservateur soutenu par Ali Khamenei, le guide suprême, l'emporte avec 62,6% des voix. Son opposant principal et ses soutiens suspectent directement l'élection d'avoir été truquée. La population descend dès le lendemain, le 13 juin 2009, pour contester les résultats. Pendant plusieurs semaines, ils vont manifester dans la rue en portant la couleur verte. C'est la couleur de Mir Hossein Mousavi, l'opposant du gagnant des élections, et c'est ce qu'on appelle le mouvement vert. La répression de la part du régime iranien elle a été très forte. La police et les paramilitaires soutenant le régime ont parfois tiré à balles réelles dans la foule. Le bilan humain est difficile à estimer, mais plus de 150 personnes pourraient avoir été tuées et des milliers arrêtées et torturées par le régime. Le plus grand mouvement de protestation qu'a connu l'Iran, c'est évidemment le mouvement Femme, Vie, Liberté de 2022. Il a été déclenché à la mort de Mahsa Amini, une étudiante iranienne d'origine kurde. Le 13 septembre 2022, elle a été arrêtée par la police des mœurs, l'organe iranien en veille du respect des mœurs islamiques en Iran. Elle a été arrêtée en raison d'un port du voile non conforme, qui est pourtant obligatoire dans le pays pour les femmes. La police l'a alors emmenée de force dans un véhicule pour qu'elle soit conduite dans un centre de détention pour suivre un cours sur la moralité. Mais selon des témoins, la jeune femme, elle aurait été battue et frappée à de nombreuses reprises par les policiers. Elle est ensuite tombée dans le coma et est morte 3 jours plus tard, le 16 septembre, à l'hôpital. Les autorités iraniennes, ils ont immédiatement nié leur responsabilité en affirmant qu'elle était victime d'un problème cardiaque soudain. Mais ça ne va pas empêcher un mouvement de manifestation de commencer à Saqqez, la ville où Mahsa Amini a été enterrée, et qui va vite s'étendre dans tout le pays. Plus de 100 villes ont connu des protestations et plusieurs centaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue entre septembre 2022 et septembre 2023. Ils revendiquaient la fin du port du voile obligatoire, mais réclamaient aussi plus de droits fondamentaux comme la liberté d'expression et souhaitaient aussi changer le système en place. La répression, elle a quand même été très forte. Le nombre de morts a été estimé par des ONG à au moins 537, mais aussi des dizaines de milliers de manifestants qui ont été arrêtés et des témoignages font aussi état de torture contre les opposants. Et on en arrive ensuite en 2025 avec l'épisode de manifestation actuelle. Anissa, pourquoi le peuple iranien est-il dans la rue ?
Alors exactement, c'est la question qu'on va se poser, puisqu'on va s'intéresser plus précisément à cette vague de manifestations qui secoue le pays depuis décembre 2025 et qui continue de faire la une des journaux dans le monde entier. Puisque depuis 47 ans, comme tu l'as dit, le régime actuel qui est en place, aucune manifestation d'une telle ampleur n'avait connu le pays. Il n'y avait pas eu de tel chamboulement et il ne se limite pas qu'aux grandes villes, il s'est étendu aussi à des petites villes à travers le pays, touchant toutes les couches de la société. Selon l'ONG Human Rights Activist New Agency, au moins 5848 personnes ont été tuées, dont 5520 manifestants, 77 mineurs et plus de 41 000 arrestations ont été signalées. Le mouvement a commencé sur des questions économiques et sociales, avec des commerçants en grève et des prix qui flambent. Mais il s'est rapidement transformé en appel à un changement politique profond. Les manifestants scandent « mort au dictateur » et réclament le départ du guide suprême iranien et du régime des mollahs. Une particularité de ces manifestations, c'est la présence de figures de l'opposition en exil, comme Reza Pahlavi. Bien que son objectif ne soit pas forcément le retour de la monarchie, son rôle a encouragé certains manifestants à croire qu'une alternative au régime actuel est possible. La répression est extrêmement violente. Internet a été coupé dans tout le pays pour limiter la communication et masquer l'ampleur des violences. Les forces de sécurité ont utilisé la force létale contre les manifestants et les autorités parlent de procès sans clémence pour les principaux instigateurs. Sur le plan international, ces manifestations attirent l'attention mondiale. Les États-Unis ont menacé d'intervenir si la répression continue, tandis que les alliés traditionnels de l'Iran, comme la Syrie ou le Hezbollah, sont affaiblis. Cette situation change la donne diplomatique dans la région et pourrait encourager d'autres puissances à défendre leurs intérêts. En résumé, ces manifestations, elles représentent une rupture historique. L'Iran connaît un mouvement national et populaire, large, étendu et déterminé, face à un régime qui montre ses faiblesses. Le monde observe, car ce qui se passe dans ces rues a des répercussions bien au-delà des frontières du pays.
Aujourd'hui, l'avenir de l'Iran, il est incertain. Il est clair que le régime subit de plus en plus de contestations et qu'il pourrait vaciller suite à ce mouvement de manifestation ou un autre. Cependant, c'est incertain car on ne sait pas si le pouvoir vacillera et les Iraniens ne veulent pas forcément le retour du Shah au pouvoir. Ils veulent une vraie démocratie mise en place dans leur pays. C'est fini pour cette émission de Où va le monde, l'émission qui décrypte l'actualité internationale tous les mois. On revient le mois prochain. Merci Gwenaël, merci Anissa et on vous souhaite une bonne journée.